cet atelier donc, qui a pour thème quels sont les acteurs, quels sont les besoins à court et à moyen terme, et que j'ai l'honneur de modérer. Je suis Aralia Chif Chameri du collectif 95 Maghreb Égalité. Sana devait donc faire la présentation, elle va arriver. Ravia Benzekri Dridi, bien qu'ils t'ont émis Dridi seulement, présidente de l'AFTURD, elle va être la discutante et c'est donc, elle va commencer par être la discutante.
Je vais discuter ce que Sana va...
Magali Til, qui est Axour Espagne, qui est une ONG qui fait beaucoup de travail sur plusieurs plans, et également elle est notre référente politique femme au réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, a eu l'amabilité de remplacer au pied levé Rafiq Arqiq, qui est rapporteur en principe, et qui est du comité des femmes travailleuses, mais elle n'est pas là, elle va peut-être nous rejoindre. Donc cet atelier, l'objectif de cet atelier est très très concret. En fait, il faut qu'on dresse l'état des lieux des acteurs de la société civile en matière de droits des femmes à la citoyenneté pleine et entière. Donc il faut qu'on dégage de cet atelier les priorités en matière de renforcement de la société civile en ce qui concerne donc la participation des femmes aux prochaines élections et à la totalité de la vie politique en Tunisie. Il s'agit pour nous donc de hiérarchiser ensuite les besoins, d'identifier les priorités à court et à moyen terme en matière de ressources humaines, matérielles, accès au financement, formation, équipement, et demande aussi vis-à-vis des pouvoirs publics toutes les attentes que nous avons vis-à-vis des partenaires à l'échelle régionale et internationale. Donc je donne la parole à Ravia qui va donc faire des propositions dans le sens de ce que je viens de dire.
Bonjour, j'ai préparé un petit papier qui pourrait très bien être en amont de l'intervention de Sané, parce que moi je vous propose de vous livrer comme ça en brut le vécu de notre association pendant cette période très courte de 2 mois. Donc j'ai pensé que pour évaluer les besoins de la société civile dans cette période de transition, et particulièrement des associations de plaidoyer pour les droits de femmes comme la nôtre, l'AFTURD, donc qu'il fallait livrer, je vais vous livrer donc le vécu au jour le jour de l'AFTURD pendant les 2 semaines qui ont suivi le départ de Ben Ali. Alors, sur quatre points, quatre volets. Même si notre association s'est impliquée bien avant, donc depuis le 17 décembre, nous nous sommes impliqués avec la coalition, avec l'interassociative. Nous avons pris des positions le 9, le 10, à chacun des discours de Ben Ali. Et malgré cela, nous nous sommes trouvés dans une situation. Nous avons été quand même, comme pour la plupart des autres associations, prises au dépourvu. La situation qu'on a dû affronter étant des plus complexes et des plus difficiles, puisque le mur érigé entre nous et le reste du monde a été brisé. Donc je résume un peu le bouleversement de notre agenda qu'a subi l'association en 4 grands points. Donc, il fallait répondre à la sollicitation, alors là, continue et combien intense, de la part des représentants de la communauté internationale. Notre association a été assaillie par la société civile européenne, régionale, par les fondations, des fondations qu'on connaissait, mais des fondations, des bailleurs de fonds qu'on ne connaissait pas, par les délégations étrangères qui venaient rendre visite, soutenir, apporter leur soutien, mais en même temps s'informer, par les représentants des ambassades en Tunisie, par les journalistes de la télévision, la radio. Alors tout cela a créé une dynamique pour laquelle nous n'étions pas du tout préparés. Et je vais traduire ça tout à l'heure en besoin. Qu'est-ce que ça a créé en nous, qu'est-ce que ça a créé dans nous. Donc nos locaux ont été pris d'assaut par des journalistes, par la télévision. Alors on était pratiquement, pendant les deux premières semaines, on avait 2 à 3 entrevues en moyenne, et même les dimanches. Donc à côté de parallèlement, il fallait également, bien sûr, notre association ayant un fonctionnement démocratique, se concerter dans l'urgence pour arrêter des positions par rapport aux offres. Parce qu'il y a des fondations, il y a des avantations pour lesquelles qu'on ne connaissait pas, il fallait s'informer, ne pas accepter de l'argent de n'importe qui, etc. Pour les offres de financement, il fallait aussi répondre à l'actualité. Notre association étant impliquée en tant que société civile, on était sollicité par le comité de la défense de la Révolution pour y participer, on était sollicité par les collectifs d'associations autour de l'UGTT. Donc à chacune de ces offres, on était obligé de répondre. Notre fonctionnement étant démocratique, où les grandes décisions se prennent en assemblée générale, j'ai commencé à discuter ce que tu allais dire. Les grandes décisions se prennent en AG et on n'était pas, c'était pas, ces formes de prise de décision n'étaient pas adéquates à la situation. Il fallait répondre tous les jours. Donc, il fallait. Je ne vous dis pas qu'il fallait trouver d'autres formes moins lourdes. Et donc, dans l'urgence, on convoquait des réunions qui n'étaient pas des assemblées générales, qui n'étaient pas des bureaux élargis, qui ne correspondaient à rien dans notre règlement intérieur. Et tout ceci ne satisfaisait pas tout le monde et il y avait une frustration de la part des adhérents. Alors, un autre grand défi dans cette situation tumultueuse d'urgence, il fallait transmettre. Parce que nous, on a une obligation de transparence et de comportement démocratique. Il fallait transmettre le flot d'informations qui arrivait aux membres du bureau directeur, au reste des adhérentes. Notre structure n'était pas préparée pour ça. Il n'y avait pas un personnel professionnel pour transmettre l'information, écrire, synthétiser. Notre site web était bloqué. Alors tout ceci aussi créait des conflits. De frustration pour nos adhérentes qui disaient on n'est pas informé, les choses se passent, on n'est pas informé, etc. Donc, par exemple, je le sais, moi, parce que je suis aussi élément de base par rapport à la Ligue des droits de l'homme, je suis élément de base, et moi-même, je suis très demandeuse d'informations auprès du bureau directeur de la Ligue. Et donc, c'est une situation assez... notre personnel permanent n'était pas du tout préparé. Alors, un troisième défi, alors là, il est politique. C'était gérer la pluralité politique de notre association. Jusque-là, notre plateforme commune est une plateforme sur les droits des femmes. Sur la commune était plutôt la lutte contre le patriarcat, pour les droits des femmes. Nous étions d'accord à peu près, il y avait un consensus. Et sur le plan politique, on était toutes d'accord. On avait un ennemi commun, c'était la dictature. Ça me gêne. Bon. Alors, après le 14 janvier, il fallait réagir à l'actualité. En tant que société civile, et ça a fait émerger nos divergences politiques au sein de l'association. Il fallait, à l'intérieur de notre association, à l'AFTUR, c'est la même chose, je crois, pour la TFD, il y a, depuis les positions féministes libérales jusqu'aux positions politiques dans les partis, on a aussi les positions féministes, marxistes de l'extrême gauche, nous avons également les lobbies indépendants, et tout ça à l'intérieur de l'association. Le consensus jusque-là trouvé autour de la lutte contre la dictature a été rompu. Et nos associations sont réellement menacées d'éclater. Nous avons vécu des moments très, très durs parce qu'il fallait, et nous avons su trouver toujours, les femmes ont toujours trouvé, essayé de trouver dans les divergences politiques le consensus. Et nous sommes, je crois, un exemple. Les femmes doivent être l'exemple à donner pour affronter la situation dans des fronts unis. Juste une parenthèse, la première semaine a été assez difficile parce qu'il s'est passé quelque chose que je crois seuls les psychosociologues et les sociologues et les psychologues peuvent essayer d'expliquer. Alors, les femmes et les adhérentes, quand on se réunissait, il y avait une telle tension, une telle émotion qu'on n'arrivait pas à communiquer. Les gens ne parlaient pas à voix basse, tout le monde criait. Je crois que ça venait aussi un peu de ce que on disait tout à l'heure, les gens ne dormaient pas assez, etc. Mais je crois aussi que c'est la dignité retrouvée. Et aussi, j'ai dit que je n'ai pas d'explication, mais je crois que ça a été, les deux premières semaines, c'était difficile de mener à bien des réunions. Les gens avaient un besoin fou de parler, et bon, ça s'est passé. Alors, la troisième, le grand défi auquel on a été affronté, c'était répondre à la demande de personnes qui voulaient adhérer. Alors, c'était tout le temps des coups de fil, comment venir, comment... Et surtout, on avait beaucoup de sollicitations, là, de la part qui venaient des régions de l'intérieur. L'AFTURD avait commencé un programme d'éducation en matière de vulgarisation juridique et de culture politique, et les gens ayant écho de ça, ils nous demandaient de venir. Alors, on a eu des demandes de Bizerte, du Kef, de Monastir, de Kerouan, des antennes, des amis qui nous disaient « Alors, quand est-ce que vous allez venir à Monastir ? Quand est-ce que vous allez venir ?» Je crois que les gens, d'une manière générale, surestimaient nos forces et nos capacités physiques. Donc voilà une demande aussi qui est, jusque-là, elle nous pose problème. Alors une très forte demande en matière d'éducation donc politique et de vulgarisation juridique et qui continue jusqu'à nos jours et jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a nos amis de Bizerte qui veulent qu'on coordonne. Je vais vous dire comment... Bien sûr, tout cela, c'était parallèlement nos projets anciens, continuer à se réaliser. C'est-à-dire, nous étions aussi sur des projets de formation, des projets d'accompagnement des personnes en détresse, on était sur des projets de recherche, on était sur un grand chantier d'évaluation aussi, parce que nous, on commençait à se poser des questions, nous avons une équipe d'évaluation externe qui travaillait nos réalisations, voilà, l'EDEMTERN, il y a un mot, mais j'ai oublié en français. Notre performance, voilà, nos performances. Donc, on était déjà sur deux grands chantiers d'évaluation. On était sur un chantier d'évaluation externe et on était sur un grand chantier d'évaluation de toutes les associations qui travaillent sur les droits des femmes. On était sur une grande recherche sur 20 associations de développement, y compris l'AFTURD de la TFD et la Ligue des droits de l'homme. Donc on est sur un répertoire et une recherche pour voir l'intégration de l'approche genre dans ces associations. Voilà à peu près quand... Alors bien sûr, c'est dans ce tumulte, bien sûr, et dans l'urgence que les volets d'une stratégie à court terme avaient le jour. Nous avons, heureusement que les choses se sont calmées pour nous, parce que nous avons compris qu'il fallait limiter nos ambitions. On n'était pas des surfemmes, on n'était pas une sur... Donc la première chose, c'est de limiter nos ambitions et de reconnaître nos limites, mais en même temps, d'essayer d'exploiter ce que nous avons acquis comme expertise spécifique pour l'AFTURD. L'AFTURD a acquis une petite expertise, une grande expertise même, dans la formation... La formation dans la déconstruction des stéréotypes de genre. D'ailleurs, c'est une formation, nos expertes sont là, qui a été une réussite, parce que tout le long de l'année, on a, on a été avec les associations pour les accompagner dans la diffusion des valeurs d'égalité, dans la déconstruction des stéréotypes de genre. Alors, notre expertise dans l'accompagnement des femmes en détresse, dans le soutien des femmes en difficulté d'insertion économique, voilà, en gros, on a dit ça, on va essayer de le transmettre dans les limites de nos conditions actuelles. Voilà comment on a travaillé. La deuxième chose un peu qui nous a aussi sauvés, parce qu'il y a aussi le volet transition démocratique, c'est de nous insérer dans une coalition, dans la coalition des associations. Ça aussi, ça a un peu allégé notre travail. Et la coalition, SIHEM, hier on a parlé, c'est une coalition qui regroupe la TFD, l'AFTURD, la Ligue des droits de l'homme, le CNLT, l'Association de lutte contre la torture, pour une feuille de route commune, hein, et le syndicat des journalistes. Excusez-moi, j'ai... Donc c'est cette coalition qui est en train de travailler sur l'initiative de RDIJA, la FIDH, que je remercie, parce qu'à un certain moment, on était dans le vide. Chaque association s'est isolée et l'AFTURD était en train, à la recherche d'une plateforme avec les autres associations. On était dans le vide, vraiment. Chacun s'est trouvé affronté à tous ces problèmes-là. Et heureusement, je remercie RDIJA parce qu'elle a eu l'initiative de nous regrouper. Et maintenant, la feuille de route, j'espère que le plus tôt possible, elle sera rendue publique. Voilà. Donc, tout cela va créer des besoins. Je vais laisser Séné parler des besoins parce que je pense que c'est des besoins de renforcement de la société civile. J'ai parlé de problèmes de communication que nous n'avons pas. J'ai parlé de ressources humaines. J'ai parlé de... Vous avez vu combien nous étions... mais surtout, dans notre stratégie, notre expérience, on va essayer... Deux expériences pilotes sont en train d'être mises en route, l'une à Gasserine et l'autre au KEF. Et j'espère que nous allons réussir ce que je viens de vous dire par rapport à la... Alors, tout le volet politique, on le fait... Parallèlement, donc, dans l'observatoire des élections, dans notre position par rapport à la justice, par rapport à l'information. Merci.
Bon. Merci, Ravia. Je voudrais rebondir à partir de ta chute, c'est-à-dire la mise sur pied de la coalition et de la feuille de route qui est fondamentale par rapport justement aux besoins du renforcement des droits des femmes pour la participation active dans ce qui est en train de se préparer actuellement, principalement la constituante. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a simplement là quelque chose de très très important qui est en train de se dérouler, qui n'a pas fait l'objet d'informations. Et on est interpellé par cette absence d'information, c'est la dissolution des conseils municipaux la mise sur place de conseils municipaux provisoires, mais un provisoire qui a des risques ou des chances, ça dépend comment on pourrait justement évaluer cela, de durer au moins 1, 2, 3 ans. Donc il est très important, vous savez que la politique communale est le premier espace pour pouvoir justement se faire connaître, faire avancer les relations des citoyens entre eux et principalement au niveau de la vie quotidienne. Quand on voit un peu le laisser-aller actuellement dans toutes les rues de Tunis et d'ailleurs de toute la Tunisie, comment les choses se passent, il n'y a plus du tout ni de conseillers municipaux, ni de réglementation municipale. Tout est à volo. Il y a des personnes qui sont en train de squatter et même de s'approprier des terres un peu partout, dans les terres domaniales, ainsi de suite. Donc il est très très important de se présenter et de se mettre sur les listes de candidats pour faire partie des conseils municipaux. C'est une priorité, je pense, et le maximum de femmes doivent être présentes dans ces conseils municipaux provisoires. On ne sait pas sur quels critères, pour le moment, le choix va être fait. Non, les délais ont été, semble-t-il, prorogés parce qu'il y a eu des protestations. Le délai, c'était le 31 mars, mais je pense que ça va être prorogé. Donc, aller vers les communes, aller vers
les
municipalités.
Non, pas les communes, les gouvernorats, justement. Les gouvernorats.
En principe, c'était
avec des écrits, avec cartes d'identité.
Donc, c'est le premier. Donc là, je vais passer tout de suite la parole à Sana en rappelant les objectifs de cet atelier. Les objectifs, comme on l'a dit, c'est d'essayer d'identifier les acteurs, d'une part, les priorités, d'autre part, et les besoins pour pouvoir renforcer les droits des femmes, principalement à la participation politique et tous les autres droits. Alors, je passe la parole à Sana.
Oui, merci. Je ne sens plus mon corps. C'est très simple. J'ai deux piliers à la place des jambes. Donc, je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée et j'ai raté mon réveil aujourd'hui. Et donc, je voudrais vraiment m'excuser très, très fortement auprès de vous et auprès de Alia, de Radia.
Non, c'est pas un problème. Simplement, rappelle à Sana qu'il faudrait qu'on...
10 minutes.
Voilà, d'accord. 10 minutes.
Alors, en 10 minutes, il est 10h20. Il est 10h20. D'abord, je voudrais faire une petite remarque en arrivant dans la salle où j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu en arrivant. Je trouve qu'on devrait commencer à protester ici. À protester ici, il faut qu'on soit paritaire. On est combien de femmes ici? On est 40. Oui, non, mais il faut arrêter, il faut aller les chercher et les mettre ici. Sinon, on n'arrivera à rien du tout, sincèrement. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'une délégation paritaire aille dire il y a un atelier de femmes. Il faut qu'on soit... C'est impossible qu'on continue, c'est le piège, justement, parmi les stratégies. Non. Non, mais c'est possible. Ben voilà, justement. Alors peut-être je mets en débat pour les questions stratégiques. Quelle place doit-on donner aux femmes dans les luttes pour les droits humains? Est-ce qu'on va mettre encore à chaque fois des ateliers de femmes sur les droits des femmes, donc dans des commissions fermées? Et c'est un peu le piège. Et tout le monde l'a su, et on l'a toujours dit. Donc c'est un peu le piège de l'enfermement des femmes qui parlent des femmes. Et voilà. Ou alors, on fait de la question des femmes une question transversale à tous les ateliers. Quand il y a un atelier élection, on parle élection, mais du point de vue femme. Quand il y a atelier liberté publique, droit, etc., quand il y a droit économique, donc tous les ateliers, je pense qu'on peut faire lancer ça en débat aujourd'hui, et puis faire, Alia fera, ou la rapportrice fera la recommandation. Deuxième idée que je voudrais... je n'ai même plus de souffle. La deuxième idée que je voudrais peut-être qu'on discute tout à l'heure ensemble, c'est concernant l'identification des acteurs. Et je vais être très honnête avec vous, cette révolution a fait tomber des acteurs traditionnels, anciens, qui se sont impliqués dans la dictature, et en particulier les 10 000 associations qu'on nous opposait et qu'on opposait à la société civile autonome. Vous le savez, qu'elles soient équipes, bon, que les équipes sportives, mais il y avait... énormément d'associations. On nous disait qu'il y avait beaucoup d'associations. Ces associations sont tombées ou sont allées d'elles-mêmes. La révolution les a balayées, comme elle a balayé beaucoup de choses. Donc on a un certain nombre d'associations de la société civile, qu'on appelait nous les associations véritablement gouvernementales, les OVG, qui ont disparu. Mais il y a les associations militantes résistantes qui ont continué, mais un peu prises de court, parce qu'elles n'étaient pas préparées. Non, quand on dit qu'elles n'étaient pas préparées, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas les infrastructures non pas logistique uniquement, mais l'ancrage, voilà, l'ancrage social, l'ancrage territorial, qui va leur permettre de rester debout pour affronter cette très belle chose qu'on a réalisée en Tunisie, qui est donc d'aller vers la démocratie et d'y aller fermement et dans les temps, encore une fois, etc. Donc une société civile résistante qui a de l'expérience, qui a accumulé énormément d'expérience, je reviendrai tout à l'heure, et qu'il s'agit aujourd'hui de transmettre et de faire passer. Comment ? Face à une autre société civile en pleine composition, je vois ici, je suis pratiquement tous les jours sollicitée et j'en suis très heureuse. Voilà, elles sont là, les jeunes. Elles sont là tous les jours. Personne ne les oui. Personne. On les remarque. Personne ne sait comment les capter vers nous. Pas les remarques. Vous avez. Ah, un homme, on lui a l'applaudi. Non, pas seulement.
On l'a pas vu, Taufir, là.
Je ne voulais pas dire personne ne les remarque, pas du tout. Vous avez utilisé un mot que je ne voulais pas utiliser. Personne ne sait aller vers elles pour. Ça fait 3 jours qu'elles sont là. Les unes et les autres, et ailleurs, et à l'extérieur, et dans les couloirs, et dans les. Et on ne sait pas. Alors peut-être que tout à l'heure, il faut qu'on trouve, qu'on fasse une permanence pour l'instant. Par exemple, qu'on ouvre une permanence dans les associations. J'ai commencé à donner rendez-vous, mais comme ça, spontanément, pour ne pas rejeter ces jeunes qui disent, voilà, on est en train de faire une association vigilante, une association vigie citoyenne, l'autre droit des femmes, etc. Donc peut-être on devrait, comment assurer des permanences tournantes pour que ça ne tombe pas sur une seule association entre le collectif, par exemple pour ce qui concerne les droits des femmes, entre l'Association des femmes pour la recherche et le développement, le collectif Maghreb Égalité, l'Association tunisienne des femmes démocrates, la commission femmes de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, pourquoi pas la commission femmes de l'UGTT, la commission femmes de certains partis, mais qui sont des femmes qui sont capables d'être tout à fait objectives, et donc, pour donner des renseignements, aider, créer des réseaux, je crois que c'est aussi une de nos priorités. Alia, je ne sais pas si je suis dans le sujet. Voilà, je voudrais, hier j'étais également un peu frustrée, il me semble donc que dans la définition de ces acteurs, Ravi a présenté la feuille de route, et donc dans cette feuille de route, il faudra. Bien entendu, il y a quelques associations qui ont pris l'initiative de faire cette feuille de route, mais il faudra absolument élargir. Pour l'instant, elle regroupe 6 associations. Le collectif Maghreb Égalité, représenté ici par sa directrice exécutive, Alia Chameri. L'AFTURDE, représentée par Radia. La TFD représentée en général par 2 personnes. Par 2 personnes, pas uniquement par la Ligue, la Torture, l'association contre la torture, le syndicat national des journalistes, le CNLT, bien entendu, c'est un peu le chef de file de tout ça, avec la FIDH, comme a dit Ravia. Et Khadija était absolument catastrophée de voir qu'on était parti. En fait, je vais vous dire la réalité, peut-être qu'on devrait prendre le temps de l'analyser. Pourquoi, alors même qu'on a créé l'interassociatif et qu'on l'a bâti depuis des années, et un interassociatif magnifique, parce que ça dépendait de l'objet, si on devait intervenir pour le soutien à la Palestine, donc une question extrêmement générale qui touche toute la Tunisie, ou des choses ponctuelles, par exemple pour, je sais pas, pour soutenir la Ligue, ou pour faire une communication devant le Haut Commissariat, etc. Donc tout dépendait des sujets. Et cet interassociatif, vraiment, on a mis beaucoup de temps à le tisser. Et c'était une manière pour nous de dire, voilà, on reste chacun dans sa spécificité. J'agis pour les droits des femmes, l'autre agit pour les droits des magistrats, l'autre pour les journalistes, etc. Mais il y a des questions communes, politique générale. Ces questions de politique générale, on les verse à l'intérieur de l'associatif et on s'apporte mutuellement solidarité. Donc chaque fois que la TFD est touchée ou qu'il y a une question de femme, on actionne l'interassociatif et vice-versa. Cet associatif a connu un foisonnement dès les moments où la révolte a commencé. C'était extraordinaire et les jeunes étaient là avec nous, on a essayé de les canaliser, ils étaient là. Toutes les associations militantes, on s'est retrouvées. Et puis quand le régime est tombé, quand Ben Ali est tombé, on est parti chacun de son côté. On a été éclatés, comme disent les jeunes. La révolution nous a éclatés. Ben Ali, la résistance, face à la résistance, on était soudés. Et on sentait qu'on avait besoin les uns des autres. Avec la révolution, on est parti en mille morceaux comme ça. Je pense qu'il est extrêmement important parmi nos priorités de nous ressouder et de faire une sorte de cette plateforme peut-être, sera l'occasion, mais peut-être plus qu'une plateforme. Je pense qu'on devrait faire un grand meeting, je le propose, un grand meeting, on prend le temps, avec les jeunes, avec les régions, essayer de canaliser et faire un grand meeting sur la société civile tunisienne après la révolution. Entre les aînés, disons, les associations un peu comme la Ligue, les Femmes démocrates, l'AFTUR, le CNLT, etc. Et puis ces associations de jeunes qui seront non pas parrainées, il n'est pas question de les parrainer, mais d'établir le contact pour y aller ensemble. Je ne sais pas, je crois que j'ai mis mes 10 minutes. Je pense que peut-être que je voudrais juste, on a fait... il faut continuer la coalition des femmes. Vous savez qu'on a été vers la conférence nationale, mais en même temps coalition des femmes, en faisant en sorte que dans notre discours, on l'a dit hier avec Khadija et les amis, etc., on discutait, il faut que ça soit... que notre revendication soit portée sur une valeur partagée, qui est l'égalité. Que ça ne soit pas une revendication qui met roulou, je vais le dire en arabe, et je vais essayer de traduire, catégorielle, et sectorielle, catégorielle. Comme aujourd'hui on dit, nous, il y a beaucoup de secteurs à qui on dit, ce n'est pas le moment de demander des revendications sectorielles et corporatistes, et communautaire pour plus. Donc l'égalité, il faut vraiment travailler beaucoup beaucoup sur le concept d'égalité qui est un concept partagé. Et j'étais frustrée hier, je voulais le dire, je vais vous le dire, je pense qu'il faut qu'on fasse le procès du régime Ben Ali aussi. On ne peut pas continuer à avoir un jugement comme ça. Bien entendu, c'est la dictature. Mais il faut que, avec tout le monde, que l'on décode les mécanismes de la dictature et qu'on fasse un grand rassemblement, un grand colloque de 2 jours, pas de 4 jours, parce que 4 jours, on est mort. En tout cas, on ne tient plus. Un colloque d'une journée et demie, intense, avec de très bonnes... Pour faire, il y a de grands noms qui ont montré... Comment Ben Ali a agi? Pourquoi je le dis? Non pas pour faire un procès et dire oui, Abba, on l'a mis Abba, ça y est, d'accord? Mais pour qu'on soit vigilant, pour que les ressorts de l'ancien ne retrouvent pas leur place et il y a une facilité, une capacité à ce que les autoritarismes se régénèrent et se réactualisent en permanence sous de nouvelles formes. Et Michel Camot l'a très bien montré depuis pratiquement... l'Empire ottoman, pour lui, c'est la thèse qui définit la vie politique de la Tunisie. Qui définit la vie politique de la Tunisie, c'est la permanence de l'autoritarisme qui s'est régénérée sous des modalités diverses. Une fois sous la modalité du RCD, d'autres fois sous d'autres modalités, etc. Et donc, je pense que c'est important. Et j'en arrête là. Je pense qu'il y aura d'autres idées. Voilà, j'ai lancé quelques idées. Merci beaucoup de votre écoute et merci beaucoup de votre pardon.
Avant de passer la parole à la salle qui nous importe beaucoup, 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 parce qu'on souhaiterait être dans l'interactivité, comme nous l'avons dit, que ce soit Radia ou Sanan, et pendant des années, nous avons été très, très, très ghettoisés. Nous n'avons pas eu cette interactivité avec toutes les femmes et les hommes. Donc, je vais passer quand même la parole à Khadija Shrif, qui souhaiterait également... Attends, non, parce qu'elle elle va parler tout de suite. Tu veux rentrer dans le débat? Non, parce que tu vas réagir. Non, je pensais que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Donc, mais en réaction... comme si, attends. On voudrait un baladeur. Deux minutes. Voilà. Je voudrais rappeler qu'on ne doit pas partir, s'il vous plaît, tous azimuts. Il est très important qu'on discute pour pouvoir présenter nos priorités par rapport à cet atelier. Nous devons donc définir vraiment les acteurs qui sont appelés à être en première ligne pour que les femmes soient présentes partout, et dans toutes les instances représentatives ou autres dans la Tunisie future et la démocratie future. Donc ça, il est très très clair que, comme l'on dit, je ne vais pas résumer, il y a les associations. Du mouvement autonome qui ont existé. Mais il y a les associations de jeunes, femmes et hommes. Est-ce qu'on va travailler avec les associations exclusivement de femmes, ou est-ce qu'on va travailler aussi dans l'interassociatif comme on l'a fait avant? Oui, je vais te donner la parole. Nous sommes donc interpellés par tout ça, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il faudrait qu'on imagine ensemble comment nous allons travailler ensemble pour pouvoir être les plus efficaces possibles dans les... à court et à moyen terme. Nous avons une échéance très importante qui est celle de la constituante. Il faut qu'on se prépare dans ce sens et qu'on puisse trouver, grâce à vous, dans la interactivité, quels sont les meilleurs moyens de le faire. Donc je prends Khadija, la jeune femme, Brabiatouni Assami, comme parce que je ne pourrais pas me rappeler de vos noms. Khadija, Olfa, Souad, Stanini Trira, tu veux après Stanini. Leïla Hamrouni, Balqis, Leïla, ensuite Souad, tu prends la parole une minute pour ton point d'ordre. Mais attendez, deux minutes.
C'est bon, je pense qu'on s'entend. Je préfère en parler en français.
Moi, je remercie mes amis. Je voudrais juste qu'on rappelle de manière très claire, quand même assez détaillée, la feuille de route de la coalition. Parce que c'est très important comme point de départ pour la stratégie. Je pense que l'objectif de l'atelier, c'est l'identification des acteurs, mais je dirais un peu plus, c'est bien d'établir des stratégies, des acteurs, un calendrier, peut-être un planning, des orientations d'activités.
Soad, merci, voilà. Mais tu n'étais, je crois que tu n'étais pas là au début de l'atelier. On a dit identification des acteurs et ensuite les priorités. C'est les priorités là, au niveau de, qui est la feuille de route. Donc ça va être rappelé, ça va être rappelé par les associations qui sont parties prenantes dans cette feuille de route. Elles vont en parler. C'est pas. Donc. Vous plaît, oui. Nom, prénom et association éventuelle. Merci.
Olfa Reis, je suis enseignante universitaire. Je ne fais partie d'aucune association. Je suis quand même soulagée de voir que le discours par rapport à la semaine dernière a un peu changé, parce que la semaine dernière, dimanche, j'ai été déçue, choquée aussi. De la partie hermétique de la TFD, comme quoi on ne pouvait plus prendre personne parce qu'on est assez débordé. Oui. C'était tout ce qu'on avait compris la semaine dernière. Je n'étais pas la seule. Hein. Je comprends bien que la TFD est quand même... à une structure assez dont on ne peut pas s'élargir indéfiniment, mais je pense que c'est du devoir des anciennes militantes d'accompagner les nouveaux, que ce soit dans des associations indépendantes ou alors au sein d'associations anciennes pour nous accompagner en fait. C'est vrai qu'on n'a pas du tout milité avant le 14 janvier et qu'il y a peut-être un besoin de le faire maintenant, de se mettre vraiment dans la vie, dans cette transition démocratique. Voilà en gros ce que je voulais dire, et c'est pour ça que je voulais avoir l'avis de Khadija Shrif par rapport à ça, que je voulais intervenir avant elle en fait. Par ailleurs, je fais partie d'un groupe d'universitaires, on s'est mis comme ça spontanément dans une espèce de travail qu'on va présenter à nos étudiants qui est on prépare quelque chose dans une vulgarisation politique pour éduquer entre guillemets nos étudiants en fait pour cette transition démocratique et vers les élections j'espère du 24 juillet. Nous avons présenté ça à nos doyens qui étaient pour qu'on fasse ça. Donc on est en train de faire ça aussi dans non pas dans le cadre d'une association, mais comme ça volontairement. Voilà. Enfin, je suis à l'ISKE, mais on est en fait plusieurs de l'ESSEC, de l'IHOC, de la fac de droit. On est un peu pluridisciplinaire. Non, médecine aussi, architecture, design.
Je rappelle que, bon, on a 45 minutes de discussion, mais essayez d'intervenir pas plus de 3-4 minutes, quitte à revenir dans un second temps.
Merci Alia et merci Olfa. Moi, je voulais intervenir sur trois points. Je vais laisser Sané répondre peut-être. Excusez-moi, oui, Khadija Shrif. Je vais quand même dire ex-présidente de la TFD. Vous n'allez pas m'effacer ça. Mais secrétaire générale de la Fédération internationale des droits de l'homme. Membre de l'AFTUR. Bon, je ne vais pas... non, je voulais répondre rapidement, mais je laisserai Sané mieux expliquer. Mais ça a été dit. C'est-à-dire qu'après la Révolution, il y a eu une demande telle par rapport aux associations. Et moi, qui ne suis pas membre du bureau, c'est vrai que j'étais assaillie par les demandes par des jeunes et moins jeunes d'adhérer à la TFD. Et il fallait expliquer, mais ce n'était pas toujours évident... Et c'est aussi un problème de communication parce que les structures, je pense, des associations existantes n'étaient pas prêtes à cette demande, à y répondre. Et puis, je pense qu'on devrait prendre le temps, je ne le ferai pas maintenant, comment on adhère à une association pour pouvoir, et ça, c'est vraiment ma conviction, pour pouvoir sauvegarder sa spécificité telle qu'elle a été construite au cours de 20 ans. Par exemple, nous militons pour l'égalité, pour la parité. Moi, j'ai eu beaucoup de jeunes femmes qui me disent « c'est pas le moment de demander la parité, c'est pas le moment de demander l'égalité dans l'héritage ». Et ça nous éloigne du projet, parce que nous, on considère que c'est le moment. Les hommes, ça fait depuis Tahar al-Haddad qui a demandé l'égalité dans l'héritage, on nous dit « c'est pas le moment ». Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on... L'adhésion, il faut adhérer, même pour vous, parce que... Et puis, si on adhère, on a 1000 personnes qui adhèrent en un jour, alors que nous, nous sommes 150, donc l'orientation de l'association va partir. Alors, moi, je dis, créez autre chose et on vous aide en fonction de vos demandes, de vos besoins. Donc, il y a un travail à faire. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, je devais un petit peu intervenir sur cette question d'adhésion et Sané parlera mieux que moi. J'aimerais, et Radia d'ailleurs aussi, la deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est un peu qu'est-ce que les ONG hier et qu'est-ce que la société civile. Pour expliquer le problème de la coalition et des problèmes qui se posent à nous aujourd'hui et pourquoi il y a cette forme d'éclatement, c'est mon explication. C'est que peut-être qu'on n'a pas vraiment intégré le rôle de la société civile. La société civile, les ONG indépendantes, leur rôle est un rôle de vigilance et de contre-pouvoir par rapport à ce que font les autorités. Mais c'est vrai aussi que nous sommes des citoyens et que chacun de nous a une sensibilité par rapport à un parti politique ou une idéologie, etc. Mais pendant longtemps, on a pu trouver ce qui était commun aux associations, c'est-à-dire à l'adhésion, défendre les droits de l'homme, etc., ou les droits des femmes, c'était clair. Et puis on était soudés parce que, comme disait Sané, on avait un ennemi commun qui ne nous permettait pas d'exister, et donc c'était facile d'être ensemble. Avec la révolution, il y a eu, on ne doit pas oublier, la mise en place du Conseil de la Révolution. Et c'est ça qui nous a divisés. C'est ça qui nous a divisés, c'est-à-dire que la démarche a été, un, on fait un Conseil de la Révolution, c'est les partis politiques qui l'organisent, et ils voulaient que les ONG indépendantes y soient, et leur rôle était de contrôler, d'être au-dessus du gouvernement en place, quel qu'il soit. On peut contester le gouvernement, on n'a pas le temps. On n'était pas d'accord pour le premier, pour le deuxième, et on peut continuer. Et justement, notre rôle, c'est de continuer, nous, à être le contre-pouvoir de ce que fait. Alors, si les ONG vont être, avec les partis politiques, impliqués dans l'autorité et la prise de décision, qui va contrôler ce Conseil de la Révolution? Et là, on s'est divisé. Et là, ça fait que l'interassociatif s'est divisé, on doit le dire. Et donc, il y a eu, heureusement, la TFD, l'AFTUR et les journalistes qui sont restés en dehors, et le CNLT, qui a au départ marché et qui retient. Et la Ligue a intégré, les avocats ont intégré, même l'UGTT, c'est pas son rôle d'être dans le Conseil de la Révolution. Et c'est, je termine sur ça. Il a fallu un peu de temps et j'ai essayé de jouer le rôle pour rassembler auprès de nos membres en tant que FIDH, en tant que Fédération internationale des droits de l'homme, mais aussi même en tant que réseau, parce que le réseau et la FIDH travaillent ensemble, en disant, même s'il y a des ONG qui ont considéré que leur place était dans le Conseil de la Révolution, ça ne nous empêchait pas, nous, de faire une feuille de route. Et l'exemple était magnifique, c'est que les Égyptiens, une semaine après le départ de Moubarak, ont fait une feuille de route commune pour avoir des revendications par rapport aux autorités aujourd'hui. Ou la question des femmes qu'on considère centrale, parce qu'on ne peut pas construire la démocratie en l'absence des femmes, ou les revendications, le manifeste qu'ont fait les femmes donc le dimanche doit être intégré dans ces revendications. Et peut-être l'une des filles va rassembler, parce que c'est leur travail, même si moi je suis membre et que je ne sais plus où me situer, FIDH, ATFD, je ne sais plus. Mais en tous les cas, que ces revendications soient les revendications des ONG d'une façon générale, pour la démocratie, pour les élections, pour observer les élections, pour la place des femmes dans des instances de décision, pour une justice indépendante, tout ça déjà, est à nous. Et c'est à nous de le faire tous. Merci. Voilà, je voulais insister sur ça.
Belkis, Laïla. Ensuite, Souraya ou Alia.
Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je voulais intervenir sur la question de la coalition. Bon, la coalition s'est formée jusqu'à maintenant concernant la feuille de route. Et dans cette coalition, il y a les associations dont a parlé Radia Sanaa, je pense, tout à l'heure. Bon, c'est vrai que nous avons travaillé depuis des dizaines d'années dans un cadre interassociatif que nous avons mis beaucoup de temps à consolider et qui a beaucoup travaillé pendant les années de Ben Ali. Mais maintenant, en revenant à la coalition, je me rends compte que les personnes qui se sont vraiment impliquées dans cette coalition, bien qu'elle est formée de gens, de personnes qui représentent leur association, il y a une majorité de femmes. Pourquoi je le dis ça? Parce que j'ai peur, et ça m'inquiète, que le même problème se pose que le problème qui s'est posé pour la Ligue et pour l'interassociatif avant. Alors, je prends l'exemple de la Ligue, puisque j'y suis. À la Ligue, lors justement de prendre position, est-ce qu'on doit rentrer ou on ne doit pas rentrer dans le Conseil national pour la défense de la révolution, tel qu'il a été nommé tout à fait au début, et on a failli être divisé au sein même de notre organisation. Parce qu'il y avait des gens qui pensaient que une organisation ou une association comme la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui doit être surtout dans le rôle et surtout de défendre les droits humains et de ne pas prendre position politique. On travaille sur un arrière-fond, si vous voulez, politique, mais on ne prend pas de position purement politique. Le fait d'être dans le Conseil national, on va être obligé de s'aligner avec les uns ou les autres, ou de prendre certaines positions politiques, vu la composition de ce Conseil national, qui est formé de partis, et de partis dont les objectifs divergent, ils ne sont pas les mêmes, alors, hein, c'est fini ? Encore une minute. Bon, il y a des choses plus importantes à dire. Bon, donc j'arrête ici, puisque déjà on a parlé, mais je veux parler de la question de parité. De la question de parité pour ce qui nous intéresse, et surtout dans les associations généralistes, qui sont des associations où les droits des femmes font partie des droits d'une manière générale. Je pense que pour ces associations généralistes, il ne faut pas impliquer dans la terre associative ou dans le front ou dans ce que nous voulons former maintenant, il ne faut pas impliquer uniquement les commissions femmes de ces associations, mais il faut impliquer toute l'association. Parce que quand on dit droits humains, on ne dit pas droits des hommes et droits des femmes. Ceux qui se trouvent dans des associations de droits humains, ils doivent défendre tous les droits sans distinction aucune.
S'il te plaît. Laïla Hamrouni.
Sbahir, je voudrais vous donner deux bonnes nouvelles réjouissantes pour nous, les femmes, et en rapport avec les questions qui ont été posées dans cette réunion, à savoir l'identification des acteurs et l'intégration de l'approche genre. La première, c'est qu'au cours de cette semaine, dans le gouvernement de l'Ariana, on a pu...
Gouvernera.
Gouvernera de l'Ariana, on a pu présenter une liste au gouverneur. Alors, c'était à peu près une liste d'une soixantaine de personnes. On a interpellé l'UGTT, les partis politiques, le PDP. Alors, on était au Tejdid, on a appelé l'UGTT, PDP et des indépendants. Et après longue discussion, le consensus s'est fait autour de... Il valait mieux présenter des hommes et des femmes indépendants des partis. Et on a présenté des gens, des progressistes, des modernistes. Malheureusement, on était presque les seuls à demander la question de la parité. Mais nous y sommes arrivés. Voilà. Donc, c'est une liste d'une quarantaine de personnes, hommes et femmes. Alors, pour le gouvernorat de l'Ariana, Sokra, etc. Bon, je vais vous épargner les détails. Deuxième information. Pardon ? Oui, il est municipal. Les municipales, oui. Alors, deuxième information, c'est...
Intervenez pas, Haliat Kamel. Merci.
Les, peut-être que j'ai été un peu ambiguë dans... Oui, d'accord. Mais j'espère que vous avez compris que je parlais des municipaux. Bon. La deuxième information réjouissante, c'est que hier j'ai assisté à la fondation d'une association toute nouvelle qui s'appelle Tunisiens Modérés. Et l'initiatrice de cette association, c'est une femme, et une femme battante qui a été là pendant les manifs des femmes, de notre manif et celle de la laïcité. Shiraz, Esma Shiraz, t'en as-tu comme l'autre nom tout à l'heure. Et maintenant, ils ont des ramifications à Sfax, à Sousse et à Bizerte.
Section.
Oui, oui, des sections, oui, une ramification, c'est une section. Houma, ils ne veulent pas utiliser notre jargon, ils disent ramification, et je respecte leur, comment dire, leur approche linguistique. Et donc, pour eux, la question de la parité, elle est à l'avant-garde de leurs revendications. Et c'est pour ça que je voudrais lier la question des acteurs. Tout à l'heure, Sané a parlé des associations. Et moi, je voudrais que... Et j'appelle les femmes, les hommes qui sont là à rejoindre ces gens-là, ces jeunes qui nous demandent et qui nous disent « On a besoin de votre expérience et on a besoin de votre soutien. » Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Bien. Alors, une autre question... la question de l'UNFT, l'association. Alors, c'est l'UNFT maintenant, formellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, mais en tout cas, Mjamda, mais dans l'informel, hier, j'ai reçu l'information suivante, les femmes de l'UNFT, elles sont organisées et elles agissent dans l'informel. Voilà. Et l'association Hedia Tunisien Modéré, Yhabouit Kablou, avec la ministre de la Femme, pour parler justement de l'UNFT. Il y a un mois, j'ai posé la question de l'UNFT. Je ne sais pas, il faudrait qu'on réfléchisse. Elle est à nous toutes. Bon, la question de la TFD. Hein? Bon. Mais, je propose maintenant, la TFD, elle est plus appelée que d'autres associations, vu qu'elle a plus travaillé dans le champ politique et elle a lié la question de la femme et à la question politique, elle est appelée à rester telle qu'elle est, mais aussi peut-être se faire, comme à l'instar des expériences du Maroc et de l'Algérie, des associations qui travaillent dans le social, c'est-à-dire la violence, l'écoute des femmes, le chômage, etc. Et Ouibde ou Tebaïn, la TFD.
Je suis désolée, je suis...
D'accord.
Je te reprends la parole. Je me la donne 30 secondes pour réagir par rapport à l'UNFT. L'UNFT est un organe du RCD. Nous avons eu des débats énormes dans le temps à cause de ça. Donc, qu'on sache, si on a dissous le RCD, l'UNFT aurait dû être dissoute automatiquement, ce qui n'a pas été fait. Et la ministre a démenti il y a 2 jours. Elle a fait un communiqué comme quoi elle n'a pas été dissoute. Il est très important, parce qu'il est très dangereux, que l'UNFT soit dissoute, parce que c'est une structure qui émaille toute la Tunisie. Elle est dans le caritatif, elle est dans le social, elle est dans tout. Et ça va être une des bases des RCDistes qui sont dissous, mais qui sont actuellement dans d'autres partis. Ils vont travailler avec toutes les structures et les sections de l'UNFT. Donc il est très important qu'on demande officiellement que l'UNFT, organe du RCD, soit dissoute en même temps que lui. Je donne la parole à Souraïa. Souraïa. Tu passes la parole donc à Alia Saada.
Merci. C'est bon? Ok. Bon, je me présente Alia Saada. Je suis philosophe de formation, ayant exercé la philosophie depuis longtemps, mais surtout j'ai été toute ma vie professionnelle, les trois quarts de ma vie professionnelle, fonctionnaire internationale à l'UNESCO. Et pendant 10 ans, j'ai consacré 10 ans de ma vie professionnelle à la question de l'égalité homme-femme. Donc, je l'ai travaillé au niveau international pour dire, juste pour me situer et avoir mon profil. Là, j'interviens sur la question, sur deux ou trois aspects importants que j'ai relevés. Premièrement, j'ai identifié quand même un grand besoin de formation et d'information, et un problème donc tout de suite lié à cela, celui des ressources. Et une autre question qui est théorico-pratique, celle du gender approach ou de la question d'avoir des réunions fermées femmes ou consacrées uniquement aux femmes, par les femmes, etc., tout en étant ouvertes bien sûr aux hommes. Donc, pour commencer par la question de l'information, j'ai su par Alia. On se connaît, ça fait 40 ans que nous avons 40 ans d'amitié, et je pense qu'on a encore 40 ans d'amitié devant nous. J'ai toujours suivi ce qui se passait en Tunisie, à travers elle, à travers ma famille, évidemment, et puis je viens régulièrement en Tunisie depuis toujours, qu'il y a un problème réel de dépassement, de débordement, disons, hein, de la demande, ce qui se comprend, ça. C'est une évidence même. Et il me semble qu'il va falloir quand même trouver des solutions modernes, disons, pour répondre à cela. Et la présence des jeunes ici et l'expérience que nous avons fait quand même du rôle de l'Internet et du rôle des moyens électroniques est une voie très clairement indiquée. Par exemple, vous dites que vous réservez une 2 heures ou une après-midi, je ne sais pas, de permanence pour recevoir les personnes, pour leur donner l'information, etc., et recevoir leurs demandes. Moi, je crois que c'est impossible de faire cela. Et que, excusez-moi, non, je continue. Hein. Une minute ? Ah ben alors, j'avais droit à une minute alors. Ok, bon. Alors donc, je crois qu'il faudrait faire cela à travers l'Internet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxièmement, donc établir des documents d'information et qui soient vraiment professionnels pour cela. Hein. Comment adhérer, à quoi ça correspond votre association et comment recevoir une information, etc. Comment créer une association ? Autre question importante donc, que je voulais souligner, c'est le problème des ressources. Je crois qu'il vous faudrait aussi réidentifier quelles sont les ressources dont vous pouvez disposer, les ressources humaines, non seulement au niveau du pays, mais au niveau de tous les Tunisiennes et Tunisiens vivant à l'étranger, qui disposent vraiment d'expertise, d'une formation professionnelle qui serait tout à fait prêt à venir dédier des séances, des jours, des journées, des semaines pour la formation dans un domaine ou un autre. Donc, je crois que ce sont deux choses qui sont fondamentales. Troisièmement, je crois qu'il faudrait passer à une autre vitesse et ne pas rester uniquement au niveau du volontariat, mais la vitesse du professionnalisme et d'avoir vraiment des associations qui soient dédiées entièrement à cela et non pas y aller et en dehors des heures de travail et des responsabilités familiales. Voilà, merci.
Là, c'est à toi. Vas-y, vas-y. Tu te présentes, s'il te plaît.
Oui. N'oublie pas. Bonjour, Zain Bate, secrétaire général de l'Association de recherche sur la démocratie et le développement et puis présidente d'honneur de l'Association des DRH en Tunisie, ARFORG. Donc, moi, ce que je voulais dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à faire le lien entre effectivement, bon, pour faire court, des associations professionnelles qui ont travaillé déjà, évidemment, sur ce problème de parité, d'égalité, de genre. Et effectivement, il y a eu des journées, je fais allusion à l'ARFORG, là, sur ces questions-là et ces thématiques qui ont été débattues à plusieurs reprises. Donc c'était un peu une association de gens qui se trouvaient sur le terrain des entreprises et qui appelaient donc à éclairer tous ceux qui étaient au sein de ces espaces-là sur ces concepts. Et donc les associations créées après la Révolution, et notamment c'était dans cet esprit-là et dans cet éclairage qu'on avait monté donc cette association dont le président est Hazem Mahjoub. Évidemment, avec des gens qui sont extrêmement aussi ouverts sur des questions économiques, sociales, les questions des ressources humaines. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'était effectivement revenir à donc le lien qui peut être fait avec des choses qui ont déjà existé et essayer de faire revenir, parce que effectivement pour rebondir, cette identification des acteurs, ne pas perdre ce qui a été fait dans ce domaine-là et réagir pour arriver maintenant à réfléchir sur la démocratie au sein de l'entreprise, puisque actuellement il y a aussi ce débat des DRH avec les délégués syndicaux, avec l'UGTT qui actuellement aussi se divise un petit peu en deux, puisqu'il y a l'UGTT, mais ça n'est plus l'UGTT unique, la centrale unique, il y a encore la centrale de Habib Ghiza, donc aussi avec toutes ces ramifications-là, il y a un gros travail à faire, ne pas oublier ces gens qui sont justement dans les entreprises, demandeurs de démocratie, demandeurs d'éclairage sur ces concepts, et je pense que le fait d'arriver à faire le lien avec tout ça, donc aussi pourquoi pas que les femmes démocrates qui sont intéressées aussi par ces travaux-là puissent donc aussi être en réseau avec nous. Voilà, merci.
Je donne encore la parole à Hejri Hela. On revient vers les intervenantes pour quelques minutes de réaction. Et ensuite, il y a Sourad, Fatma Wahlima et monsieur qui ne veut pas donner son nom. Ah, Francesco, d'accord. Alors, Hejr ou Hela?
Hejr.
Hejr, oui,
monsieur. Il y a notre
monsieur
là-bas.
Mais non. Elle aussi, elle peut parler. Votre nom, monsieur?
Ahmed Ben Salah.
Ahmed Ben Salah. Et votre nom, madame? Najwa. Magali. Alors, ça y est, Hejr, la parole est à Hejr.
Alors moi, j'ai remarqué que Hejr Aleni, étudiante en droit, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je parlais de la question de la parité pour ce qui est de l'Assemblée constituante, mes camarades et mes amis me sortaient le discours de la méritocratie et qu'aujourd'hui... Donc d'abord, je voudrais savoir s'il faut imposer une parité ou est-ce qu'elle s'imposera d'elle-même. Et enfin, il y en a qui pensent que les mentalités sont que les femmes se sont assez, etc. Et s'il faut l'imposer,
on
comment
s'écoute, Yarish, comme
surtout à notre niveau,
mesdames, s'il vous plaît. Ouh. Merci.
Surtout à notre niveau, à nous, nous jeunes, qui par quel mécanisme, comment pourrons-nous imposer cette parité? Voilà.
Donc, Hela Ben Selm, étudiante en sciences juridiques. Donc, je vais parler en ma qualité de citoyenne, de jeune, plus que donc parce que je fais partie de, c'est-à-dire j'ai assisté à plusieurs associations, mais j'ai jamais eu une carte d'adhésion. Donc, je trouve que, c'est-à-dire le plus important pour nous, nous devons aujourd'hui plus que tout consacrer une culture pour les jeunes d'aller participer, d'aller voir vers toutes les associations. Donc, demain, donc vraiment. J'ose émettre le souhait que notre pays se transforme pleinement en un pays démocratique, car on ne peut plus faire de concessions sur ce terme. La démocratie n'a jamais été au rendez-vous ni avec le régime bourguibien, ni avec le régime benalien. Donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui, surtout les femmes, nous devons continuer notre lutte, notre schéma, c'est-à-dire d'acquérir surtout une égalité, une parité entre hommes et femmes. C'est vrai qu'il y en a toujours une discrimination et surtout une discrimination de genre dans notre société. On n'accepte plus parfois, c'est-à-dire disons que vous les femmes, vous avez plein de droits, trop de droits, donc, alors que ce n'est pas vrai. Au niveau donc des textes, même le code de statut personnel, et c'est vrai que c'est un acquis, il y en a toujours et des textes qui sont discriminatoires, quoi que ce soit, c'est-à-dire au niveau de l'égalité successoriale, qu'on doit la revendiquer maintenant et plus que jamais. Aussi, c'est-à-dire nous devons nous battre pour la laïcité, pour, voilà, c'est-à-dire pour acquérir les droits nécessaires pour nous en tant que femmes. Et pour moi, et à mon sens, je trouve que nous devons nous mobiliser pour acquérir les moyens, les outils pour construire une vie, une société civile forte et riche, parce que je trouve que la vie, c'est-à-dire des associations et tout, ça sera un relais d'opinion très fort entre le gouvernement, entre l'individu. De suite, donc, le citoyen ne sera plus seul à affronter un régime quel qu'il soit, et surtout une société civile. Ça va être un moyen de lutte contre les dérives intégristes. Elle sera donc le meilleur défenseur de nos acquis sociaux. Et comme ça, donc, nous devons construire une vigilance associative avec les jeunes et avec les générations. Donc nous avons besoin de votre expérience en tant qu'association. Nous, peut-être, nous avons déjà commencé un petit peu, ça fait, c'est-à-dire quelques années à la faculté. Nous avons commencé avec un club étudiant de juriste citoyenne. Donc nous avons eu le soutien, bien évidemment, de la TFD, de Madame Sané, et avec beaucoup d'autres membres de l'association. Bien évidemment, j'étais de la première promotion de l'université féministe Elham Arzouri. Nous avons appris beaucoup, beaucoup et tant de choses, et nous espérons continuer le chemin ensemble. Voilà, tout simplement.
Je redonne la parole. Aux élections, vous. 3 minutes pour Sané, 3 minutes pour la...
Trois minutes. Alors, sur la TFD, je comprends très bien la frustration de Olfarais. J'espère qu'elle... Je pense qu'il y a eu un malentendu. Le mot hermétique, on nous le dit souvent, que l'Association tunisienne des femmes démocrates serait hermétique. En réalité, je pense, peut-être, mais dans toute association, il y a un moment où... les gens se connaissent tellement, et puis surtout nous, on a vécu 20 ans ensemble, on a milité tellement ensemble qu'on se connaît, mais je pense que vous serez notre meilleure avocate à partir de maintenant. Voilà, je vais vous dire. La Tunisie, au moment de l'indépendance, est devenue un État corporatiste. Il a transformé toutes les associations qu'il y avait avant l'indépendance, et elles étaient foisonnantes. Vous le savez très bien, il y avait une vie culturelle et associative extrêmement importante, surtout que le pays a bénéficié d'un régime d'assouplissement de la loi sur les associations en 1936 à cause du Front National, du socialisme qui est arrivé et des nouvelles idées sur les libertés, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les colonisations étaient en train de...
Populaire.
Ça met au Front National, ça marche, le Front Populaire. Rite le ralta, mon camarine Le Pen, l'autre... Manifère, je fais camarine Le Pen ou Trabe, n'y a rien. Samhouni, donc vraiment, quelle honte de...
Allez, vas-y.
Donc au front, le Front Populaire 1936, vous l'avez bien compris, c'est juste Zalet Lissène. Beaucoup d'associations et l'État, entre 56 et 63, a organisé l'État corporatiste à travers les associations en les mettant sous le label Organisation nationale. Et bien entendu, toutes les associations du Parti communiste, les associations de femmes, les associations, et il n'y avait plus eu de diversité, tout le monde était sous le même chapeau d'autorité dans des organisations nationales. La TFD, c'est vrai qu'elle a beaucoup de crédit, et les gens qui viennent vers elle, et les femmes qui viennent vers elle, c'est un honneur. Blacks, c'est un honneur. L'idée, c'est de ne pas, et j'espère qu'encore une fois, qu'on soit comprise, ce n'est pas du tout de l'hermétique. On accompagnera toute personne qui veut soit rentrer dans le groupe, et donc toi les tonchot, c'est-à-dire venir faire des activités avec nous, demander et dire je veux vous accompagner. Mais ce n'est pas de l'encartement, ce n'est pas de la... uniquement je veux... Voilà ce que les mots, quand ils nous arrivent, voilà ce que nous disent les personnes. Je veux... Voilà, je veux adhérer. Or, l'adhésion est d'abord une adhésion d'esprit, une adhésion de projet, de parcours, et donc il n'y a pas de problème. La deuxième idée, malheureusement, on est obligé. Donc, j'entends bien, Benes Balel, Madame, c'est vrai, vous avez raison, on va utiliser les moyens modernes, bien entendu, et c'est fait. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a un site, esmofemmedemocrate.org. Hey, femmedemocrate.org, il est très... Oui, il est très récent et puis très interactif, j'espère, il le sera de plus en plus. Nam. Et on a une page Facebook, donc page Facebook, ATFD. Voilà, ATFD. On a le mail et on a le Facebook, l'Hemmerzouki, ou la blog, l'université, l'Hemmerzouki. Bien, rapidement. Après, je peux vous donner toutes les informations pour celles qui voudraient, pour la TFD, comment on va faire. Je peux vous proposer même qu'on se mette dans un groupe. Aoufama Halima, de la TFD, Aoufama Lebnetman, on peut se mettre dans un groupe pour voir comment on va, au moins le déclenchement pour accompagner, demander, venir, etc. D'accord ? Je vais nous Samahni, à l'UNFT, Brabbi Samahni, à l'UNFT, chouf, il faut, à mon avis, il ne faut pas que ça soit l'UNFT, une étude sérieuse. On ne peut pas, comme ça, dire l'UNFT, c'est le RCD. L'UNFT est l'histoire du pays. Et il n'est pas question aujourd'hui, non seulement la chasse. Moi, j'ai besoin de ma mémoire. Je vis dans un pays, j'ai une histoire. On assume nos histoires avec ce qu'elle a de bon et de mauvais. À la limite, on peut faire un procès, enfin, quand on dit un procès moral, dire... Peu importe, et prendre la décision ensemble, pas la décision d'une seule, il ne faut pas qu'on retombe dans des coupes qui nous coupent de nos mémoires. C'est terrible aujourd'hui, c'est la phase la plus terrible. La vigilance, quand on parle de vigilance, c'est maintenant qu'il faut construire ceci. C'est maintenant qu'il faut permettre qu'il y ait des associations féministes islamiques en face de nous. C'est maintenant qu'il faut permettre qu'il y ait des associations UNFT, yani Mthasbine, PSD, voilà, RCD, mon cher CD, je sais mieux, Esprit Bourguibien, des associations qui ne sont, etc. Si on ne le permet pas aujourd'hui, eh bien, dans quelques jours, voilà, donc c'est pour ça, et si vous voulez, le hadith...
Je te donne la parole 30 secondes, je prends 30 secondes pour réagir à ce que vient de dire... bien sûr, l'UNFT, c'est la mémoire de la Tunisie. Bien sûr, le bourguibisme, c'est la mémoire de la Tunisie. Ça n'empêche, bien sûr, qu'on ne va pas effacer ça d'un seul coup de gomme ou zapper ou cliquer. Mais sachant... Attends, c'est un débat, ça c'est clair. Mais c'est une structure qui existe. Elle va être le fondement des partis qui sont en train de s'organiser dans tout le pays... sous couvert, qui sont d'origine RCD. Je suis désolée quand on dit néo-destour ou parti bourguibien, sachant que de toute façon, Ben Ali, c'est l'héritage de Bourguiba aussi. Il faut le rappeler.
On ne va pas donner
des moyens aux partis qui sont... On n'a pas ces moyens.
Mais... Bon. Il faut un débat.
Excusez-moi.
Débat sur le RCD.
J'ai mes 3 minutes pour répondre aussi. Oui, alors, la problématique par rapport aux adhésions, nous avons une très, très forte demande d'adhésion pour l'AFTURD. Alors, nous appliquons les mêmes règles, j'allais dire que nous appliquons en temps de paix. C'est-à-dire, toutes les personnes... Bon, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que nous invitons, nous appelons toutes nos amies qui veulent bien rejoindre l'AFTURD de participer à toutes nos activités. Et c'est à travers la participation, c'est à travers le processus qui peut durer quelques mois qu'on peut déjà commencer par le moyen du parrainage d'adhérer à l'AFTURD. C'est un peu à peu près la logique que nous sommes en train de suivre. Le deuxième point, c'est les jeunes. Alors, j'ai oublié de vous dire que parmi, quand on a identifié les besoins et la demande, les demandes qui nous sont parvenues, c'est aussi un grand nombre de jeunes, qu'ils soient ou qu'elles soient organisées ou pas, on a eu des contacts. Donc, nous avons eu des réunions avec des jeunes, des groupes de jeunes, et nous avons un projet, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui concerne les jeunes pour l'AFTURD, de formation, une sorte de regroupement, pour toujours dans la grande question de la culture politique et juridique. Et on a besoin justement des jeunes juristes pour venir nous donner un coup de main et pour animer, être des modérateurs pour ce genre de... Alors, le troisième point sur lequel... Les acteurs. Je crois qu'on a oublié de parler des acteurs qui sont en train de s'activer dans le virtuel, dans les groupes électroniques. Alors, j'ai identifié au moins 5 groupes électroniques qui parlent de parité et d'égalité sur la toile et qui sont différents. C'est des groupes différents, des femmes, des mixtes, des moins mixtes, etc., qui parlent de protection du CSP, de laïcité, parité, il y a au moins 5. Donc ça, il faudrait en tenir compte. Les gens discutent et c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins lourd que des associations, nos associations. Le troisième point, à propos de l'UNFT, je suis d'accord avec Sané pour dire qu'il y a l'histoire de l'UNFT. L'UNFT, il y a quelques mois, a été aussi... pratiquement prise d'assaut par les Ben Ali, etc. Mais je voudrais dire, que si l'UNFT reste avec les moyens qu'elle a, on est dans une concurrence illégale,
déloyale.
C'est-à-dire que l'UNFT a profité du pouvoir de Ben Ali pour le financement, pour son déploiement dans les régions et dans une période d'élection, il faudrait peut-être être assez vigilant, comme pour le RCD, au moins pour bloquer provisoirement les avoirs et les locaux. Bon, je sais qu'il y a une tentative à Sousse où les femmes ont assailli Asfax, ils ont occupé les locaux de l'UNFT, et je crois que ça n'a pas duré parce que l'armée a dû intervenir pour évacuer les...
Merci, Razia. Je redonne la parole. Il nous reste 10 minutes, il me semble. On a encore ici jusqu'à 30. Donc, il y a Souad, non, Hlima, pardon, Hlima, Fatma, Souad. Attends.
Je reviens, donc je crois que... Oui. L'objectif, c'est qu'on a les acteurs et les stratégies. Je reviens sur les acteurs. Il y a les acteurs habituels, donc on a retenu, les jeunes, les nouvelles formations, et puis les régions. Bon, les acteurs ne sont pas isolés. On doit les viser dans une sorte de stratégie. Donc, objectif, moyen et agenda. Il faut absolument se fixer ces 3 éléments pour faire la stratégie. Et là, je ne suis pas d'accord pour rester encore sur des colloques ou des rencontres comme ça, grandes, au niveau surtout de la capitale. On n'a plus le temps. Il faut foncer, il faut y aller vers les régions. La stratégie, c'est une stratégie de déconcentration et de décentralisation. Je vais, la déconcentration, je félicite mes deux associations, AFTUR et ATFD, elles ont commencé à se déconcentrer. La décentralisation, c'est faire un programme, absolument se fixer un programme dans les deux mois à venir, en commençant par descendre au niveau de trois grandes régions, et nord, de descendre la conférence nationale qu'on a faite ici, l'affaire au niveau des régions, cibler donc ces acteurs. Ensuite, c'est avec ces gens-là, au niveau de chaque région, élaborer, déployer un programme. Un programme, donc, d'alliance, où il y a les alliances, ces initiatives, pour un front large, démocratique et laïque pour les élections. Donc ça, c'est urgent, il faut se mettre à faire ça et rien que ça. Et ça, ce n'est pas un programme d'adhésion aux associations, on le fera, on a le temps de le faire, c'est un programme d'adhésion c'est une adhésion au programme de la transition. C'est urgent de faire une transition avec un front large, démocratique et laïque. Je crois que c'est ça ce qu'il faut faire. L'adhésion sur la base de la... Même celle qui... Alors sur la base, celles et ceux qui sont d'accord pour la parité, même s'ils disent ce n'est pas, ce n'est pas le moment, ils doivent s'allier à nous. Je suis pour le principe. Un mot sur l'UNFT et un mot sur... Alors l'UNFT, c'est un problème, je suis comme tout le monde, assaillie, et je n'aime l'UNFT, on fonce, on prend les clés, il y a eu des initiatives. Ma position était, j'étais assaillie par plusieurs copines. Ma position. D'abord, il faut être clair qu'en 1987, l'UNFT, de point de vue organique et juridique, elle est devenue autonome. Il faut le savoir, c'est pour le savoir, c'est tout. Donc, comment aujourd'hui attaquer l'UNFT? Et politiquement, on est toutes d'accord qu'il faut l'attaquer. Moi, je dis, si le procès du RCD, il faut le savoir, c'est un procès... qui a des éléments de la jurisprudence, mais c'est un procès politique. Et on dit pour l'UNFT, ils doivent kif. On ne peut pas faire le procès politique bark et on demande par exemple la dissolution. Il faut trouver des éléments, des dossiers. Et là, il paraît que ça existe, des dossiers de malversation, des dossiers de corruption, et accompagnés d'un dossier politique. C'est urgent de faire le programme, je vous en prie, mes amis.
Fatma, بعد حليمة سامحني يا اخي. Fatma, oui.
Merci. Fatma Ben Guider, محامية في تونس, غير منخرطة بأي جمعية, لكن بإمكاني القول أني صديقة لنساء الديمقراطيات. أنا تدخلي مش يضمن عتاب للنسيج الجمعياتي بين الظفرين التقليدي LATFD, LAFTURD وغيرهم. فاش العتاب هذا؟ بالنسبة لقاعدة أو مبدأ لباريتي, التناصف أو المناصفة, أنا حضرت لحد اللي فاتت لهنا وحضرت في الكولور كذا من اللي بدأ ودي ما نسمع فيها الكلمة باريتي 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 وامشيوا للمجالس البلدية معناها باش تكتسحوها. أنا في رأيي أنه لباريتي هي آلية لتفعيل مبدأ المساواة اللي نديه به النساء الكل, تفعيله على مستوى الواقع. إذا كان احنا نقولوا نمشيوا للبلديات ونكتسحوها سيج جمعياتي, علاش ما يحثش الخطاء نحو الجهات؟ علاش ما يكتسحش وسائل الاعلام؟ علاش ما يشوفش الانترنت زاده باش يكون راي عام مواطني ومدني؟ يا خويا احنا بالنسبه للباريتي, بالنسبه لي انا مش المهم انه النساء متواجدين بصفه متناصفه او موازيه للرجال, ما يهمنيش الكم بقدر ما يهمني الكيف. انا اذا كان مش تكتسح النساء بين ظفرين اكتساح وان كان هو حق مثلا المجالس البلدية ونلقى فيهم ديزير سيديست ونلقى فيهم الخوانجية, أنا ما حاجتيش معناها باش تكون مثلا 50% أم 50% فام وبعدك تجيني معناها برامج في المجالس البلدية وبكلها معناها برامج متخلفة ما بين ظفرين, وإلا معناها برامج بكلها ديزير سيدي. وينهم النساء الديمقراطيات؟ وينهم لافتورد؟ في وسائل الإعلام خاصة المتلفزة منها. يا أخي الناس هي تتفرج في الحق معاك ولا في برامج هشة. طول المجتمع التونسي، الشعب التونسي تصالح نوعا ما مع التلفزة التونسية. إذا كنت تعمل برامج الناس الجمعياتي كما هم نشوفوا فيهم المحامين بغتوا يوميا في نسمة وفي حنة بعل وفي التلفزة الوطنية، وينهم النساء الديمقراطيات وينهم لافتورد باش على الأقل يعرضوا شوية برامج يوضحوا معناها للناس كيس كو ساف دير سا 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 اي سا.
فاطمة يا اون اكسكلوزيف تعرفها هذه وذول الناس كل يعرفوها اللي هتلفز هذم مهما كانت سيفة ما همش قاعدين يعيتوا لا 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 للنساء لا للنساء الديمقراطيات المعروفة دوك تو الكلمة لحليمة
صباح الخير و جو ميكسكوز بور لو روتار مي صدقوني ان البارح جي فيي على خاطر جاني تليفون في الليل سامحوني اللي تعبني برشا تعبني عن مستويين وباش نقول لكم جاني تليفون من صديقه هي مناضله بالجمعيه من بعد العشاء متاع الليل يقولوا لي اللي فما 9 نساء عاملين اعتصام في الاتحاد الجهوي ببنزرت ضد الكاتب العام الجهوي للاتحاد pour motif d'harcèlement il y a 4 femmes qui attendent notre soutien 9 femmes qui attendent notre soutien et je vous dis très sincèrement que j'ai eu une insomnie وعلى خاطر اولا نقب فيهم يعني في من بينهم une adhérente de la TFD ou qui appelle les associations et là j'ai dit de Bizerte, yani, c'est le secrétaire général de l'UGTT. Et lui, qui n'a qu'à les acteurs, où lui, yani, je me sens de plus en plus interpellée. بالحكاية هذه وبحكاية مشابهة في إطار آخر وتوا صديقة بلقيس تفهمني علاش نحكي je me sens très mal à l'aise sur les nos alliés hommes ou nos amis nos camarades donc شي باش نعملوا عليهم في cette bataille c'est ça ce qui me يعني ça m'interpelle يعني je vous dis يعني خاطر j'ai promis aux copines que je passerai cette information mais en même temps
en plénière
d'accord باهي مي فما النقطة الثانية على اللي قالوا لا تي اف دي هرميتيك انا باش نقول لكم اللي كي اول ما تأسست الجمعية جاونا 500 امرأة في اجتماع دار جلد لكن وقبلناهم وعمروا الاوراق وكل شيء لكن كي بعد كي يكثر الضرب في لا تي اف دي ولا بور لي ميم بوزيسيون وباحترام على خاطر لي ميليتونت اللي قعدوا في لا تي اف دي احترموا لا شارت كي ايتي نورمالمون ادوبتي بار لي 500 فام دو دار الجلد وقعدنا يعني لاخر دقيقه واحنا محافظين على الميثاق هذاك قلنا كان نموت وما نسلموش فيهم ويعني مختلف وتعاركنا ورجعنا على بعضنا وكل شيء لكن كنا ديما متشبثين بك الميثاق اللي التوى مناش يظهر لي التوى مازال قائم الذات ومتشبش نتشبثوا به أكثر ما من أي وقت مضى وبالتالي بتقوليش يا رميتيك جاو 500 امرأة نورمال ما تقول انت بعد 10 سنين وليو فواديس يا أخي الحق زادة جاتنا اون كلاس معينة وناس هكاكا وناس اختاروا باش يسانفيستيس ايور والا واللي كل واحد يواجهه خير واللي اختار شمع اخر مش على خطرنا اخترنا زاده باش نقعدوا في نحافظوا على وجود وبالمبادئ هذيك باش يقولونا من بعد تحاسبونا هنا ارميتيك ولا مسكرين على رواح يعني ساشي بيان اللي توا بعد جست لو 14 جاونا 2000 ولا 3 في النهار الاول دونك انا جو مو دي يعني سي اوسي فما حاجات يلزمهم الناس يرجعوا
اسي احمد بن صالح وصيف نجوى سافا فينير فرانشيسكو Monsieur Ahmed Ben Salah, 2 minutes, Brabia Lahalb. Je vais demander aux interprètes si, est-ce que vous êtes d'accord pour rester encore 10 minutes après l'heure? Est-ce qu'on peut rester 10 minutes? 10 minutes, c'est d'accord, ok.
Moi, je viens d'un bled qui s'appelle Mouknine, où je survis depuis 40 ans. Je dis bien où je survis. J'ai entendu certaines de mes amis, j'ai entendu donc certaines de mes amis parler, enfin des femmes présentes ici, parler de déconcentration, de décentralisation, etc. C'est un impératif majeur, c'est une priorité, mesdames. Parce que nous avons installé, nous avons réussi, je dis la société civile de Mokhnin, parce que c'est un gros bourg, c'est pas une ville, c'est un gros bourg de 60 000 habitants, le plus conservateur du pays sur le plan des relations hommes-femmes, il faut le savoir. Nous avons quand même réussi à former et à imposer un conseil municipal où nous avons cherché à réaliser la parité. Il y avait 17 femmes dans une réunion ouverte et des partis de gauche à l'exclusion du RCD et des islamistes. Nous avons réussi donc à former un conseil municipal et nous avons de 16 personnes et nous aurions voulu qu'il y ait 8 femmes et 8 hommes. Mais les femmes ne voulaient pas. Elles étaient 17 présentes. Dieu sait comment on a pu les amener. Et sur les 17 femmes, il y en avait 9 qui étaient originaires, qui sont originaires de différentes villes du pays, pas de Mokhnin même. Nous avons appelé les femmes par haut-parleur. Elles ne sont pas venues. Et les quelques femmes qui sont venues n'ont pas voulu entrer dans le conseil municipal.
Ahmed, c'est récent là ? Vous parlez
d'avant-hier.
Avant-hier.
Avant-hier. À 11h du soir. À 11h du soir, nous avons réveillé le délégué et nous avons imposé la liste. Et à 8h du matin, le conseil municipal que nous avons imposé a pris ses fonctions. Donc,
Combien de femmes ?
2. Deux. Sur 16. Donc, je conclue. Vous avez un immense chantier devant vous. Allez, nous avons un immense chantier devant nous. Nous avons un danger qui nous guette tous et toutes, qu'il ne faut pas minimiser. Ce n'est pas parce que nous sommes ici entre nous qu'il faut dire que les autres n'existent pas. Et les autres, vous les connaissez.
Merci, Serge.
Les autres, vous les connaissez.
Vous allez nous donner vos coordonnées et on va essayer de venir vous voir.
Vous avez déjà les coordonnées de ma femme. Nous avons déjà un noyau de l'association des femmes démocrates. Non, nous avons tout.
Merci, Serge.
Et nous avons en plus le conseil municipal. Nous avons une infrastructure. Nous avons une maison des organisations. Nous avons une maison de...
D'accord,
merci.
On va donner la parole à
Najwa. Venez nous aider à déterrer nos femmes.
D'accord, on va essayer. Najwa, ensuite Francesco.
Aslema, je m'appelle Najwa Mouala, je suis enseignante universitaire à l'ICEP Parsar Saïd. Dans le domaine de la psychologie du handicap, la psychologie du sport. Je fais partie d'une association appelée Sport au Féminin et nous travaillons sur des thèmes tels que la question du genre dans le sport, la question de l'accès des femmes aux postes de décision dans les fédérations sportives, la question des filles pratiquantes et le rapport, justement, parce que nous avons un problème en rapport avec la question du harcèlement sexuel dans le sport et la question du dopage aussi dans le sport. Et ce sont des problématiques que nous traitons. Nous prétendons faire de la recherche-action, mais malheureusement, on n'arrive pas justement à trouver une écoute, parce que ce sont des problèmes qui dérangent des responsables, qui sont pratiquement tous des hommes. On a essayé de travailler sur la question de la représentativité et on a réussi à imposer la question du quota, en sachant que nous sommes arrivés à un 20% de représentativité des femmes au niveau des fédérations sportives. Mais malheureusement, ce quota, je trouve qu'il est instrumentalisé parce que nous avons des femmes que nous formons par rapport à la question de la prise de la parole, que nous formons par rapport à la question d'avoir confiance en soi quand nous sommes dans une majorité qui est masculine. Mais les questions, mais ces femmes se trouvent être des figurantes parce que, au fait, nos idées n'arrivent pas. Et les problèmes, donc, ne sont pas résolus à la base. L'autre problématique est en question avec la mixité dans le sport. Nous sommes en train d'observer de plus en plus de pratiques qui excluent cette mixité. La mixité au niveau scolaire, je dirais, au niveau scolaire. La mixité se trouve dans toutes les disciplines d'enseignement, mais quand il s'agit de sport, nous observons, et surtout au niveau de certaines régions telles que la région du Cabon, Nabeul, nous avons une pratique sportive, parce que 2 heures par semaine, l'objectif étant la mixité sociale, apprendre par le sport à s'accepter. Et donc on trouve que les filles sont avec des enseignantes femmes et les garçons avec des enseignants hommes. Et c'est des problématiques sur lesquelles nous, en tant que petite association, nous travaillons, mais je ne dirais pas que nous sommes en train de faire de grands pas. Donc, mon appel est justement par rapport à cette question d'inter-associative. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à de telles problématiques? Et merci. Association Sport au Féminin.
Merci. Najwa Francesco. Francesco,
ouais, bonjour. Très rapidement, je suis Francesco Diasio, je suis le secrétaire général de la marque Europe. La marque est l'Association mondiale des radios communautaires. Et donc, chez nous, il y a une grande composante, si vous voulez, des axes de travail sur les questions de genre. Nous évaluons ça d'une façon très importante. Et donc, c'était tout simplement pour faire un point. Donc, je ne vais pas suggérer les stratégies. Mais certainement, on remarque que la participation, la communication vont toujours ensemble. On a des exemples en Jordanie, en Amérique latine, en Asie, et des expériences, si vous voulez, sur lesquelles travailler ensemble a des résultats concrets. Je suis italien et je viens d'un pays où les présentatrices à la télévision du journal sont 60%, alors que les directrices de journaux sont à peine 3%. Donc c'est là une question entre l'image et les contenus. Et sur cela, voilà, la marque est là et on voudrait bien travailler ensemble sur ces questions. Tout simplement là. Merci.
Juste, je vais essayer d'être très brève. Et je pense que dans la lignée de ce qu'a dit Francesco, je ne vais pas non plus ici donner des leçons, parce que je pense qu'on apprend énormément en étant ici. Et on se rend compte en fait que les problématiques sont des problématiques partagées. Problématiques partagées nord-sud, région du monde. Et je pense que ce qu'a dit Francesco, la communication par exemple, est un des exemples où on voit que non seulement l'image à la télévision, mais aussi dans les radios... On voit que ce qu'on appelle le toit de cristal est là, au nord comme au sud. Moi, ce que je voulais, justement, dans ce sens-là, je voulais revenir sur la question de la parité et de l'égalité. Je pense que la parité est une des questions clés, surtout dans les différents processus qui sont en marche. Et je salue l'initiative de Monsieur Ahmed, je n'ai pas retenu le nom de famille.
Ben Salah.
Conseil
municipal provisoire de l'Occitanie.
Et des gens du conseil voilà, de ce conseil provisoire. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que je pense que les efforts que l'on fait dans le sens pour garantir la parité sont des efforts que l'on fait pour garantir la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans participation égalitaire des femmes. Les femmes font partie de la société. Ce sont elles qui garantissent la reproduction sociale, c'est-à-dire non pas seulement la reproduction à avoir des enfants, mais garantir tout ce qui est le rôle reproductif. Et on ne peut pas en utilisant les excuses des relativismes culturels, etc., dire non, les femmes doivent être écartées. Donc c'est clair que la parité est une des priorités. Et en rappelant ce que disaient les jeunes, on a le même problème dans tous les pays. Et je pense qu'il faut écouter les expériences démocratiques, de transition démocratique d'autres pays, soit-il du Nord, soit-il du Sud. d'élaboration de constitution, d'élaboration de lois publiques d'égalité. Tout ça, il y a des expériences. En dehors de la Tunisie, on comprend que le mur, comme vous avez dit, le mur de l'isolement a été brisé. Et il y a la volonté de la part d'organisations du Nord, du Sud, de l'Europe, de l'Amérique latine, d'autres pays du monde arabe, d'apporter, de partager leurs expériences. Et une des expériences sur laquelle toutes les femmes qui ont travaillé pour la défense de leurs droits et pour l'établissement de sociétés démocratiques est une expérience où la parité est primordiale. La parité et tous les quotas, enfin vous êtes au courant de tout ce qui s'est fait dans les pays arabes également à ce niveau-là. En ce qui concerne, moi ce qui me préoccupe aussi, ce sont les délais qui vous sont imposés par le rythme actuel. Je vois que vous êtes toutes complètement débordées, fatiguées. Heureusement, on a du maquillage pour cacher les cernes. Mais il y a une constitution, il y a une constituante. Je pense qu'il faut se préparer. Il faut essayer d'anticiper ce qui va vous tomber dessus. Donc sur les constitutions, par exemple, il y a différents modèles. Et je pense que c'est important d'essayer de vous diviser, de vous répartir le travail pour voir quels sont les modèles de constitution qui pourraient être, comment est-ce qu'on peut les mettre dans les lois publiques, etc. Donc vous appelez à consulter les organisations comme dans le cas de Francisco, la communication, les organisations féministes qui ont travaillé sur l'élaboration de mécanismes. De mécanismes. Et pour terminer, la vulgarisation aussi me semble très très importante pour faire comprendre aux femmes ce qu'est la politique. Les femmes souvent soit ne sont pas intéressées, soit elles pensent que c'est pas de leur ressort, ou soit elles ne se sentent pas suffisamment formées ou préparées, elles n'osent pas parler en public, etc. Et je pense qu'il y a un travail de vulgarisation. La politique, les femmes doivent faire de la politique. La politique, c'est pour les hommes et pour les femmes, c'est primordial. Et en ce qui concerne ne pas effacer l'histoire, je voulais juste vous rappeler qu'en Espagne, il y a encore 200 000 familles qui attendent de voir leur mémoire et la vérité sur le cas des personnes qui ont été assassinées par le régime franquiste et des femmes qui ont été violées, tuées, emprisonnées et dont les vexations ont été différentes selon qu'elles étaient femmes, c'est-à-dire que les vexations, enfin les violations des droits sont différentes selon qu'on est un homme et une femme. Et je pense que la mémoire est primordiale, sinon la réconciliation n'est jamais totale.
Merci. Bérénice.
Merci. Très rapidement, un peu dans la ligne de ce qu'a dit Francesco, je voulais juste dire qu'effectivement, un des objectifs de ces ateliers finaux au nom du séminaire, c'était précisément aussi d'établir des recommandations, une espèce de feuille de route face aux organisations internationales qui sont là et qui ont organisé toutes ces activités, justement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir. Donc d'une part, définir quelles sont vos priorités, ça je crois que déjà on a un peu avancé, c'est l'atelier le plus concret que j'ai vu moi jusqu'à présent, mais il y a dans la fiche de synthèse de l'atelier, il y a une question qui est directement quels sont les besoins à court terme, quels sont les besoins à moyen terme et qu'est-ce que vous attendez des organisations internationales. Peut-être que, bon là je renvoie la balle à Alia, qu'on peut essayer de conclure avec quelques petites choses un peu concrètes qui soient déjà directement un peu un accord de travail futur si ça vous intéresse. J'espère que c'est le cas puisqu'on est là pour ça.
Alors, oui, rapidement, m'a demandé à aller sur la mérite, sur la parité. La parité, c'est clair. La parité, c'est clair, il faut l'imposer parce qu'elle ne se fait pas naturellement. Elle ne se fait pas socialement, disons, parce que les sociétés ont vécu sur des représentations de type inégalitaire, discriminatoire, patriarcal. Et donc la préférence, même si la préférence va aller vers les hommes. Alors, comment faire ? Donc la parité, il faut qu'elle soit imposée par la loi. Et je voudrais vous dire qu'il ne faut pas vous laisser impressionner par les discours de culpabilisation des femmes. Parce que derrière l'idée de méritocratie, on me l'a dit, il y a des jeunes, mais de, oui, il faut qu'elle soit compétente, il ne faut pas qu'on y arrive. Et c'est normal, bien entendu, parce que la dignité des femmes, c'est d'être de montrer aussi qu'elles sont compétentes et non pas parce que... Sauf que ce problème-là, jamais aucun homme n'a essayé de montrer qu'il est compétent en politique, et on a eu l'exemple de Ben Ali. Il doit quand même nous déculpabiliser. N'importe qui, on n'a pas besoin d'être compétent. C'est pas une histoire de compétence. Ce n'est pas une histoire de compétence ou de pas compétence ou de performance ou de pas performance. La société est en fait d'hommes et de femmes. La société, la politique étant de s'intéresser à ces affaires-là de la société, il est normal que les hommes et les femmes qui composent la société s'intéressent ensemble aux questions qui se posent de la même manière à eux deux dans leur société. Le raisonnement est aussi simple. Et donc, il faut qu'elle soit... Et on fera des formations. Je vais faire une proposition. Je pense que le tissu associatif, je l'ai dit hier dans l'atelier sur les élections, mais je vais le dire sur l'atelier des femmes. Il faut que le tissu associatif le plus large possible envoie des mémorandums sur ces questions à la commission des réformes politiques. Que sur ces questions, on envoie. On veut parité, que la parité, que cette revendication soit de parité. Il y a toutes les associations qui sont intéressées, signent et envoient à la commission sur l'élection. Maintenant, on veut un scrutin de liste, je ne sais pas quoi, qu'on l'envoie. On veut qu'on ait un mémorandum qui soit envoyé le plus rapidement possible et que quelqu'un se charge de faire le tour de toutes les associations qui sont prêtes à endosser ces valeurs et à adhérer à ces valeurs. Et le mettre sur Internet et après faire les... Voilà.
Bien. Je vais tâcher de faire une synthèse. Et si j'ai oublié des choses... J'espère que Magali pourra compléter quand elle fera son rapport cet après-midi. Et également, lors de la restitution, vous pourrez intervenir lors de la plénière. Donc, en ce qui concerne, en fait, je dirais, l'aspect le plus important, qui est celui... j'ai trouvé le terme utilisé par Magali en la matière que pas de démocratie sans participation égalitaire... Ça devrait être notre intitulé. Donc, pour pouvoir vraiment ancrer une démocratie, quels sont, avec une participation égalitaire, quels sont les acteurs ? Il semble avoir été dégagé de cet atelier que les acteurs, ce sont principalement les associations, et en début, les associations de femmes et les associations qui ont été... les associations d'abord résistantes pendant toute la période de cette dernière période de déficit démocratique, mais aussi les associations qui sont en train de se créer maintenant, celles qui de jeunes et de moins jeunes, et aussi il faut s'ouvrir également vers des associations généralistes et des associations donc des jeunes, des moins jeunes, des associations généralistes et, comme dit Sana, des régions. Donc, et principalement, également, constituer le plus important au niveau de ces associations, c'est de se constituer en coalition ou en front démocratique avec donc un consensus clair et net que la démocratie ne peut pas se construire sans participation égalitaire des femmes. Donc, exiger une des conditions, c'est la parité, et sinon le quota. Alors, comment pouvoir donc faire passer l'idée de la parité, parce que, comme vient de nous l'expliquer Sirmed Ben Salah de façon très claire, c'est qu'elle n'est pas encore intégrée dans notre société. Donc, une des priorités de ce front démocratique, c'est aussi de faire l'éducation à l'égalité. Il s'agit de partir dans faire des programmes, puisque nous avons bientôt, je vais vous dire quelles sont les priorités qui sont en l'occurrence la constituante, c'est de faire l'information, formation, grâce à la communication sur l'éducation à l'égalité et prendre le problème à bras le corps. On n'en a pas parlé ici parce que quand on parle d'égalité, parité, il semble qu'il y a un consensus. Il n'y a pas eu, je dirais malheureusement, d'autres courants d'idées qui soient présentes ici et qui auraient dit c'est impossible parce que nous sommes dans une société à majorité musulmane et d'islam, et que de ce point de vue, le statut des femmes continue à être un statut de moins droit. Donc nous allons avoir aussi à contextualiser dans l'éducation à l'égalité, à contextualiser le droit musulman, à expliquer que le droit musulman ne peut pas être un obstacle à l'égalité. Ça fait partie de nos objectifs en matière de formation, information. Il faut que ça soit. Il faut aussi faire aussi de la communication par rapport à l'élargissement de la place des femmes, que ce soit en appelant à ces femmes à être candidates pour la constituante, mais également pour les conseils ou les délégations, comme a dit les délégations municipales, provisoires. Exiger qu'il y ait au moins un quota minimum, si ce n'est pas la parité, entre 35 et 40%, et militer dans ce sens. Exiger du gouvernement actuel, parce qu'on ne voit pas suffisamment les femmes dans les postes de décision actuellement, ni dans les directions. Dans les dernières nominations qui ont été faites, que ce soit dans le gouvernement, premier, deuxième, troisième, elles sont deux femmes sur 38 hommes. Donc il faut que la société tunisienne s'habitue à voir des femmes dans des postes de décision. Ni délégués, ni gouverneurs, tout à fait. Et donc il faut essayer de pousser le gouvernement actuel provisoire à nommer des femmes dans les postes de décision. Également dans les sociétés nationales, à la radio. Il n'y a pas une femme qui a été nommée à la radio. Nous avons des compétences extraordinaires. À la télévision, pas une femme n'a été nommée. Dans les sociétés... Non, dans les sociétés... Dans les sociétés, les STEG et ainsi de suite, dans toutes ces sociétés, pas une femme.
Voilà.
Oui, mais il y a des compétences. Non, je suis désolée. Non, ça ne vous dit. Attendez, ne réagissez pas, laissez-moi. Ne réagissez pas, Khadija, s'il te plaît. Tu es en train de... Ça m'a ni Soraya, c'est pas possible. Vous parlerez dehors de tout ça. Je fais la synthèse. C'est pas vrai. Nous avons des compétences. Nous avons des femmes extraordinaires. Non. C'est parce qu'elles n'ont pas nos compétences n'ont pas été sollicitées. Nous, on peut sortir des listes de
synthèse.
Brabi Radia, deux minutes. C'est 2 minutes. Donc, nous avons aussi besoin de nous déployer. Donc là. C'est la présence des femmes dans les postes de décision, à la tête de sociétés nationales et autres, doit justement habituer notre société à aller vers la parité et au fait que les femmes sont dans des postes de décision. Donc il faut aussi nous déployer les besoins. Les besoins, c'est les stratégies par rapport au déploiement dans les régions, faire des campagnes qui cible réellement les femmes et les hommes, aller dans les quartiers. Et je pense que les besoins, là je m'adresse aux sociétés, aux ONG internationales, nous avons besoin d'expertise pour nous aider à communiquer. Nous avons besoin aussi de ressources en argent et des ressources humaines pour nous relayer. Et nous avons besoin, comme a dit, on dit un certain nombre de personnes, de devenir des professionnels et de salariés. Nous avons une jeunesse qui est au chômage, mais qui est une jeunesse mûre et qui est exactement dans la majorité d'idées avec nous. On va les salarier pour aller vers les quartiers, vers les régions, pour nous relayer nos fondamentaux face actuellement aux groupes islamistes qui sont déjà dans les régions et déjà dans les quartiers. Il faut qu'on relaie ça par l'intermédiaire de jeunes qu'on doit salarier.
Voilà. Bien. Ça veut dire que quand il n'y a pas...
aujourd'hui, les islamistes à Nahda.
Mais c'est justement, je voulais répondre sur ça, Miriam. C'est très bien. Bravo pour les islamistes. Mais bien entendu. Mais c'est ça la démocratie. Alors allons-en.
Asma, quand on dit parité, ça en principe, c'est des listes, ce qu'on appelle des listes IP, c'est-à-dire femmes, hommes, femmes, hommes, femmes, hommes. Et c'est ça ce que nous allons exiger par rapport à la constituante. C'est des listes IP paritaires.
Et si les démocrates progressistes ne sont pas capables de faire de la parité, vers que les islamistes après.
Même dans les pays européens,
il y a une résistance.